Chapitre 6. Il se passa plusieurs semaines pendant lesquelles Claude, retiré dans sa terre de la Courdraye, mesura son blé, vendit son foin, fit ses vendanges, chassa les perdreaux et les grives, et constata, dans les rares moments où sa pensée prenait forme de méditation, qu'il était l'homme le plus heureux du monde. À diverses reprises, suivant les sentiers des bois humides et chauds des premières pluies, les mains dans les poches de son gilet de chasse, son chien quêtant au bord des touffes de fougères et d'ajoncs, il s'arrêta comme grisé par la vie, par la paix, par la plénitude de joie qu'il sentait en lui et autour de lui. D'autres fois, il est vrai, l'idée lui vint surtout aux heures lentes de l'après-midi, quand la bourrasque soufflait dehors et l'empêchait de sortir, quand il entendait d'autres bruits dans la vaste salle où il se promenait que celui de son propre pas renvoyé par les murs, l'idée lui vint qu'une jeune femme embellirait encore cet agréable Courdraye. Une image se présentait à lui, sans en avoir été prié, celle de Thérèse. Les mains tachées de groseille et confuses de son tablier à bretelles, ou disant, les yeux levés, « Le conte des étoiles, monsieur, nous en avons une, mon parrain et moi. » Mais il ne s'arrêtait pas longtemps à de pareilles rêveries. Elle lui paraissait indigne d'un homme heureux, qui commande 20 vignerons, jouit d'une indépendance parfaite et d'un revenu plus que suffisant. Il se contentait donc, en ces occasions, de tirer une forte bouffée de sa pipe, s'approchait de son épagneul étendu devant le feu, l'assurait que, de longtemps, personne ne troublerait leur ménage à tous deux, et sortait, malgré le mauvais temps, pour inspecter le cellier où fermentait son vin. Quand il fut de retour à la ville vers la fin d'octobre, seul dans son hôtel du Faubourg, avec sa vieille Justine, l'image revint plus fréquente et, soit que les distractions fissent moins nombreuses autour de lui, soit paresse d'une âme longuement tentée, il y prit un plaisir croissant. La plupart de ses amis n'étaient pas rentrés de la campagne. Dans les rues, des îles de maisons toutes closes avaient sur leur contrevent la poussière de 6 mois. La chaussée appartenait aux moineaux, et même les jours ouvrables, quand il faisait du soleil, un monde de petites gens, rendus à la liberté par l'absence des grands, s'en allait vers les prés voisins avec la ligne sur l'épaule. Comment ne pas songer un peu? Et Claude se rappelait l'invitation de M. Maldon. « Revenez au musée !» Fallait-il y retourner? Ne devait-elle pas plutôt obéir à des scrupules qui, par moments, le prenaient? M. de Quéredol avait manifesté, par toute son attitude, un désir très peu vif de voir s'établir des relations entre les pépinières et la Courdraye. La proposition même de M. Maldon contenait une réserve. Un jour que ces questions s'offraient de nouveau à son esprit, il entra pour y réfléchir, au jardin des plantes. Il savait qu'un des plus sûrs moyens de rencontrer un peu de solitude et de recueillement, c'est encore de choisir une promenade publique, la foule ayant plutôt le goût des endroits lassants où il y a de la poussière, les boulevards, les grandes rues, les remparts des places fortes et le tour des fontaines. Il entra donc et descendit l'allée en pente bordée de platanes, admirant la limpidité de l'air et la profusion d'or que l'automne jette sur le monde. Au bout de l'allée, il y avait plusieurs serres à la file, dont les vitres peintes en blanc, cintrées sur les arceaux de fer, rayonnaient autour d'elles une vraie chaleur d'été. Là, quelques bonnes gens, des habitués, se chauffaient en faisant la sieste. Et devant eux, marchant d'un pas relevé, Claude aperçut deux promeneurs qu'il reconnut tout de suite, bien qu'ils se présentassent de dos. L'un gros, court, le geste rond, la voix chaude, était monsieur l'officiat. L'autre, plus sobre de mouvement, droit et cinglé dans sa redingote, ne pouvait être que le parrain de Thérèse. Ils causaient avec animation, à demi tournés l'un vers l'autre, et l'on devinait, à leur attitude même, au peu d'attention qu'ils accordaient aux rangées d'invalides à gauche et au massif de dahlias à droite, qu'ils arpentaient depuis longtemps ce coin découvert et tiède du jardin. Claude ne voulut pas reculer et continua sa route vers eux. Comme il parlait à voix haute, bientôt il put saisir des mots. « Eh bien, mon cher monsieur, disait monsieur de Carédol, je ne crois plus qu'elle nous quitte à présent. Elle a l'air tout à fait heureuse au milieu de nous. Oh, si vous l'aviez vue parler de ce concert de demain !» À ce moment, les deux promeneurs, qui s'étaient arrêtés à l'extrémité de la serre, se retournèrent ensemble et aperçurent Claude Revel, qui allait les dépasser. Monsieur l'officier étendit la main. « Je vous arrête au passage, dit-il, depuis le temps que je vous ai vu. Vous connaissez mon jeune voisin, ajouta-t-il en s'adressant à monsieur de Carédol. Celui-ci, probablement rassuré par la fuite du temps, qui n'avait amené aucun incident nouveau, répondit « Oui, j'ai le plaisir de rencontrer monsieur il y a un mois. »« 35 jours !» dit Claude étourdiment. Monsieur de Carédol eut l'air surpris de la promptitude du calcul et se demanda d'où venaient ces mathématiques. Il n'en demeura pas moins parfaitement correct, aimable même, fit deux fois encore le trajet d'un bout de la serre à l'autre, questionnant Claude sur la coudraie, sur les dernières manœuvres et sûr de comme une relation qu'ils avaient dans la ville. Puis il voulut prendre congé. Monsieur l'officier entraîna à deux ou trois pas et d'une voix qu'il s'efforçait de rendre confidentielle, mais qui arrivait bien nettement à Claude. « Quant à votre projet pour demain, monsieur de Carédol, oh, je suis d'avis. »« Bien, bien, » dit ce dernier en essayant de dégager sa main. Mais monsieur l'officier le retint. « Je suis entièrement de votre avis. Distraction saine, excellente. Dites-le à Maldon de ma part. Dis-tu que cette chère enfant ne peut pas toujours demeurer enfermée aux pépinières ?» « Je n'y manquerai pas. Au revoir !» dit M. de Carédol en se dérobant rapidement à l'étreinte de M. l'officiel. Il était devenu tout rouge et visiblement gêné. Claude le vit saluer, s'éloigner en hâte, très nerveux, faisant avec sa canne un moulinet d'impatience. « Qu'est-ce que c'est que ce concert ? » demanda-t-il en s'approchant de M. l'officiel. « Ah, vous ne saviez pas ? Non ? » Mais le premier de la saison, au Cirque-Théâtre. Monsieur de Carédol doit y conduire sa sœur et mademoiselle Thérèse. Monsieur l'officiel continuait de suivre du regard l'ancien officier de chasseur qui montait l'avenue de Platane au pas de charge. « Pauvre monsieur de Carédol, ajouta-t-il d'une voix plus basse, il ne l'aime que trop. Ce doit être bien peu reposant de mer ainsi. » « Oh, de quel air enthousiaste !» me disait tout à l'heure. « Nous sommes tous ravis d'aller à ce concert, Thérèse surtout. Et c'est moi qui ai eu la première pensée, monsieur l'officiel, moi, qui ai lutté et obtenu la permission. Elle ne l'aurait pas demandé, la chère mignonne. Car voyez-vous ce qu'elle a par-dessus tout ? C'est une idée délicate du devoir, du mieux. Par nature, autant que par piété, elle se porte vers ce qu'elle croit être le plus parfait. Pour plaire aux autres, il n'y a rien qu'elle ne sacrifie, et s'impose, vous savez, sans qu'on puisse se douter qu'elle y mette un peu d'effort. Quel trésor de joie pour nous trois !»« Vraiment, il disait cela ?» demanda Claude. « Mais oui, mon ami !» Emporté par sa nature expansive et naïve, monsieur l'officiel, le regard fixé sur les derniers arbres derrière lesquels M. de Kéredol venait de disparaître, avait tout l'air de se parler à lui-même et d'oublier la présence de son voisin. Il se détourna et s'aperçut que Claude écoutait avidement. « Ah, mais qu'est-ce que je vous conte là, monsieur Claude? Oh, excusez-moi, j'aurais dû être à vous. Mais plus je vais, plus je me sens dans le cœur un écho qui me répète les choses et que je ne puis faire taire. « Tiens, dit Claude, il commence déjà chez moi, cet écho-là. Il y a des jours, restez-vous au jardin, monsieur l'official. Hélas, non, j'aurais dû partir avec monsieur de Kéredol. Mais le plaisir de vous serrer la main. Allez, il faut que je cours à la gare. Un voyage? Oh, pas bien long, jusqu'aux Luziettes. Petite commission à faire, un coup d'œil à donner. Je serai de retour demain. Au revoir, monsieur Claude. » Et le bonhomme s'éloigna à son tour, mais posément, distribuant à des anciens qui le reconnaissaient un salut de la main, se retournant même une ou deux fois pour bien montrer à Claude que ce départ n'était point un prétexte et qu'on avait toujours la pensée occupée de son jeune ami. Claude, immobile devant la serre, éprouvait une joie puissante, une joie qui grandissait d'instant en instant. Libre de penser, libre d'écouter les mots qui bourdonnaient si joliment autour de lui, il avait bien fallu les chasser tout à l'heure, pour répondre à monsieur l'official. Mais maintenant, ils revenaient tous. La chère mignonne, une idée délicate du mieux, pour plaire aux autres. Il n'y a rien qu'elle ne sacrifie. Quel trésor de joie! C'était comme une chanson que chantaient les rayons pâles du jour, les feuilles remuées par une brise insensible, les toits égayés de lumière. Trésor de joie, mais tout répétait l'aveu échappé à M. de Kéredol et redit par l'official. Claude s'enivrait lentement avec ces mots qui grisent les âmes. Debout à la même place, abandonné aux rêves, il avait l'air de contempler la cime des arbres. Le vieux, qui, sur les bancs éparpillés çà et là, chauffait leurs jambes allongées, le virent avec étonnement sourire dans le vague à quelque chose de mystérieux qu'ils ne purent saisir, puis rougir d'avoir été vu, puis se dérober par les allées tournantes au regard des promeneurs. La chanson continua toute l'après-midi. « Mais c'est vrai qu'elle est charmante, » songeait Claude. « Aucune contrainte n'a pesé sur elle, aucune pression, aucun moule. » On ne l'a point forcée à fleurir, elle était close. Comme elle s'est montrée simple avec moi, différente de tant d'autres, dont le sourire même est une chose apprise et effarouchante. Moi aussi je suis simple, même un peu loup. Peut-être c'est mademoiselle Thérèse, que depuis mes 20 ans, sans le savoir, j'ai attendu. Il aurait voulu un conseil à qui ouvrir son âme, à qui demander... Est-ce bien elle? Que vaut-il faire? Il n'y avait personne. Non, il n'y avait personne, puisque sa mère était morte, puisque ses amis étaient absents, ou trop jeunes, ou trop ignorants de Thérèse, et de lui-même pour le guider. Mais la main maternelle qui gouverne le monde a des secrets merveilleux. Au carrefour où l'homme n'a pas mis le poteau indicateur, elle pose un arbre avec un nid, une pierre moussue, une simple branche de ronce en fleurs. Et ces pauvres témoins de la route ne savent pas ce qu'ils font. Mais celui qui cherche, il reconnaît un signe et s'en va. Claude, après le dîner, monta dans sa chambre. Il ne venait pas pour épier ses voisins. Oh non! Mais comment ne pas regarder un jeune ménage pendant le frais du soir, en face de la fenêtre. Depuis une semaine, les colibris hébergent leurs filles et leurs gendres. Chômage, vacances, on ne sait pas bien. Le gendre, qui est ferblantier, a entrepris de planter au bout du terrain du vannier un jardin d'agrément à son idée. Il y travaille 6 heures par jour pour se reposer. Il est joli homme, ce jeune marié lancé, la tête intelligente et maigre, de petites moustaches noires. Dans sa jaquette brune, il a presque l'air d'un monsieur, et ses travaux prouvent qu'il a déjà le goût du luxe et du rococo. Adieu les carottes sauvages, dont les ombelles égayaient le feuillage sombre des acanthes. Adieu les orties et les arômes aux cornets percés d'une lance d'or. Non, il pique des fusains en boule, des houx panachés, des arbustes taillés et étiquetés par un paysagiste rustiqueur des environs. Il est moderne, assurément, et il veut que son beau-père soigne davantage les dehors. La jeune femme admire cette transformation. Elle est assise près du peuplier, sur une chaise qu'elle a renversée un peu en arrière. Ses lourds cheveux bruns, un piquet d'épingles ornés, s'appuient au tronc de l'arbre. À demi étendue, les pieds soulevés de terre, elle rit d'un rire muet, très naïf, le même, soit qu'elle regarde son mari défoncer le massif, soit qu'elle se détourne à sa gauche vers le berceau d'osier que la grand-mère agite, tout absorbée, elle, la bonne vieille, par le nouveau-né qu'elle endort. Le vannier est à cheval sur un billot, le long du mur, un peu loin, pour voir tout son bonheur ensemble. Il fume. Il n'entend rien des bavardages à demi-voix qu'échangent les deux femmes. L'heure indécise, un dernier rayon de soleil qui change en auréole la rainure jaune du peuplier, la rumeur décroissante de la rue, les pigeons qui se becquettent sur l'arête du toit et se laissent l'un à un, d'une aile paresseuse, glisser au colombier, encadrent cette scène. Bientôt la grand-mère se lève, un coup de vent frais a secoué les brides de son bonnet. Elle enveloppe de ses deux bras la corbeille et le trésor qu'elle enferme. La jeune femme la suit des yeux jusqu'à la porte en se penchant. Elle est toute charmante ainsi, la voisine. Elle a le charme des petites gens qui n'ont pas la honte d'être heureux. Le père, qui a fini sa pipe, rentre aussi sans rien dire. Les deux vieux sont attirés par le berceau. Les deux jeunes sont demeurés, elle appuyée à l'arbre, lui plantant ses arbustes nains. Mais cela n'a pas duré. Il a compris qu'elle était seule. Il a tourné la tête vers elle, la fine moustache relevée, montrant ses dents blanches. Leurs yeux se sont rencontrés. Il a jeté tout de suite sa bêche. Sa femme est venue à lui et les voilà qui se promènent l'un près de l'autre. Ils s'arrêtent près des fusains, ils repartent, ils causent bien bas pour ne parler que des innovations faites au jardin du père Colibri. L'ombre croît autour d'eux. La jeune femme s'appuie au bras de son mari, le front levé, les yeux câlins, et petit à petit, en s'épiant, et voyant s'il n'était pas vu, ils se sont mis dans l'axe du gros peuplier et se sont embrassés. Claude s'est éloigné de la fenêtre, troublé par ce conseil muet. Et quand il est revenu, la jeune femme et son mari avaient disparu. De la maison close du vannier, un cri montait par intervalles et une voix, frêle comme le son d'une flûte lointaine, chantait. Dodo Minette, dodo poulette, dormez donc si vous voulez, je suis bien lasse de vous bercer. Alors Claude a appuyé son front sur la vitre et il a dit en lui-même: Eh bien, demain j'irai au concert et j'y verrai Thérèse parce que je l'aime.
Chapitre 7. Vers 2 heures, Claude entra au cirque et prit place dans une des loges au fond de la salle. L'énorme chef d'orchestre, courbé vers ses seconds violons, leur conseillait des ténuités de son infinies.
on ne percevait qu'un faible murmure sur lequel évoluait un corps. Le public varié qui se pressait sur les gradins, les auditeurs des fauteuils de parquet écoutaient dans le même silence la marche des pèlerins et le balancement des nuques sortant des cols de fourrure, la chute progressive des mains qui tenaient le programme, le regard circulaire des gens venus par hasard et que le silence d'une foule étonne toujours, les violoncellistes pinçant leurs lèvres au trémolo indiquait un beau passage. Claude chercha Thérèse parmi ces gens immobiles et vus de dos. Au troisième rang du parquet, il aperçut sous un feutre noir orné d'une aile rose un cou svelte couronné de cheveux blonds et qui se perdait un peu plus bas dans l'ombre d'un tour de plumes. C'était Thérèse Maldonne. Nul autre qu'elle n'avait cette grâce parfaite. Elle se tenait bien droite entre sa mère en toilette sombre, la tête inclinée vers l'épaule, et Robert, penché en avant, tout pelotonné dans son plaisir de dilettante. Et le second violon semblait prêt à rentrer dans le néant, et le corps en profitait pour se plaindre amoureusement. Hélas, rien n'est fragile comme l'émotion d'une salle. Il y avait au second un auditeur de la race noire. Nul ne s'occupait de lui. L'innocente fantaisie lui prit d'enlever son par-dessus. Il y mit un peu de solennité. Quelqu'un près de lui le remarqua et dit à mi-voix « Tiens, il va reprendre son costume national. » Presque personne n'avait entendu, mais une fusée de rire était partie. Elle fila le long des banquettes des secondes, passa aux premières, gagna le partour, envahit le parquet. Tout le monde se détournait et se dissipait, même les abonnés, même les passionnés. Tous paraissaient reconnaissants d'avoir été distraits, de reprendre pied dans la vie. Cela ressemblait à un réveil général. Thérèse, elle aussi, avait tourné la tête. Elle souriait à peine d'un sourire d'envie, comme pour dire « Que je voudrais bien savoir, comme ce doit être drôle, ce serait si bon de rire tout à fait. » Ce regard, pur et vivant, errait sur la foule. Il arriva jusqu'à Claude. Elle le reconnut. Ses lèvres s'allongèrent un peu et la frange de ses cils blonds s'abaissa légèrement en signe d'amitié. Oh, cela ne dura qu'un éclair. Elle ramena les yeux par degrés vers sa mère qui n'avait pas changé d'attitude, pas plus que Robert, lui dit un mot à l'oreille et l'aile rose reprit sa silhouette primitive au-dessus du chapeau noir, tandis que le chef d'orchestre, avec des gestes agrandis pour ressaisir le public, continuait à diriger la marche de Berlioz. Claude, retiré au deuxième rang de la loge, appuyé aux cloisons fumeuses, entre lesquelles peu de songes d'amour pareils aux siens avaient dû éclore, ne pensait plus qu'à Thérèse et ne voyait plus qu'elle. Oh, le merveilleux concert, et comme à certaines heures, la puissance créatrice de nos âmes transforme et fonde en un seul hymne toutes les sensations diverses qui nous viennent du monde. Comme tout parle une même langue pour nous traduire nous-mêmes. Que jouait-on maintenant? De quel maître étaient les symphonies qui se succédaient? Quel numéro portait-elle sur le programme tombé à terre? Ouf, question vaine. Il n'y avait dans la salle qu'une enfant blonde là-bas et la foule, sans le savoir, et l'harmonie joyeuse ou plaintive de l'orchestre et toute la lumière tournant des vitrages, tout cela n'était que pour cette petite tête fière, pour l'ovale aminci de ce visage de vierge. Et un seul homme comprenait et goûtait le sens mystérieux qui s'échappait de toute chose. Claude Revel, immobile au fond d'une loge de cirque. Il remarqua enfin que la foule s'écoulait autour de lui et se leva. Monsieur de Quérédol, jusqu'alors, l'avait plusieurs fois cherché du regard dans la salle et ne l'avait pas rencontré. Mais en sortant du rang de fauteuil où il avait pris place, Il se trouva à tourner le dos à la scène et aperçut Claude Revel, tout en haut, encadré dans l'étroite ouverture de la loge, les yeux fixés sur Thérèse, qui commençait à monter vers lui. Soit qu'elle eût deviné derrière elle la surveillance anxieuse de Robert, soit timidité de jeune fille, Thérèse passa près de Claude sans détourner la tête. Sa mère la suivit, causant avec elle. Mais M. de Kerédol s'arrêta un instant au milieu de l'étroite coupure des gradins, et il n'eut pas un mot, ne fut pas un geste seulement, de ses paupes prunelles bleues, dures comme un reflet d'acier, jaillit un éclair de colère à l'adresse de Claude debout à trois pas de lui. Un défi d'homme à homme, prouvant bien que désormais la certitude était acquise et la lutte résolue. La lutte! Hélas, elle était bien dans la volonté de Robert, dans son cœur atteint au plus profond de sa tendresse. Mais lui-même, en ce moment où il éprouvait une irritation violente, comme s'il en eût senti la faiblesse secrète, il se hâtait de fuir. À peine avait-il descendu les marches du perron, qu'il offrait le bras à Mme Maldon et remontait le faubourg d'un pas plus pressé que d'ordinaire, tournant et dépassant les groupes noirs qui détendaient la rue en pente. Thérèse marchait à côté de sa mère. Elle semblait indifférente, nonchalante, comme ce qu'une pensée, même indécise et faible, isole de la foule. Aucun des trois ne parlait, et ce n'est un mot rompu rarement. De loin, Claude regardait diminuer l'aile rose. Bientôt, parvenu à la route qui filait droit sur les pépinières, parmi les branches d'ouvriers et de boutiquiers, Robert ralentit le pas. Il se trouvait dans l'horizon du domaine. Il atteignit la Sauve, mais aucune embellie ne se manifesta dans son humeur. Quand le portail du logis se vit enfin refermé derrière eux, il poussa un soupir de soulagement. Puis, laissant les deux femmes entrer dans la maison, traversa tout le jardin pour aller s'asseoir au fond, sous la tonnelle de laurier. « Oh, joli succès !» dit-il en accrochant son chapeau à une branche et en s'épongeant le front. « Tout ce que j'essaye tourne de la même façon. Depuis hier, je redoutais cette rencontre-là. Elle était fatale. Et dire qu'il est peut-être venu... averti par moi, par l'imprudence que j'ai eue de bavarder avec l'official. On a toutes les chances à son âge, et toutes les malchances aux miens. » Ces réflexions furent interrompues par Thérèse. Elle avait quitté son feutre noir, pris un chapeau de paille fanée, et elle venait, de son allure vive et décidée, nullement troublée, bien qu'il eût des choses graves à demander. « C'est vous !» dit Robert, que l'arrivée de sa nièce prenait un cours de résolution dans le trouble des premières méditations. « Mais oui, moi, » répondit-elle, « nous avons à causer tous deux. » Elle ouvrit un pliant, appuyé le long des treillages qu'enveloppaient les touffes de laurier, et s'assit en face de M. de Kerédol, un peu plus bas que lui. « Mon parrain, » dit-elle en arrangeant les plis de sa robe, « je suis venu pour vous demander une preuve de grande affection. »« Oh, je vous en ai tant donné, ma pauvre chérie. Vous devez bien savoir que je ne vous refuserai pas. »« Oh !» reprit-elle sans lever les yeux. « Celle-là est d'une autre sorte. Je veux savoir de vous un secret. »«
Un secret, Thérèse ?»«
Oui, depuis plusieurs semaines, depuis 2 jours surtout, je vous trouve... » Elle semblait hésiter entre les mots.
« Comment me trouvez-vous ? »
« Triste, inquiet, je ne sais pas bien exprimer cela, mais je vous trouve changé, comme si la maison n'avait plus le même charme pour vous. »«
Oh, si !» interrompit vivement Robert.
Et Thérèse releva la tête et vit qu'il était un peu pâle. « Mais comme si, poursuivit-elle, vous portiez en vous-même une peine. »
« Et quand ce serait, ma pauvre enfant ?
Pouvez-vous comprendre ce qui se passe quelquefois de sombre et d'ennuyé dans l'esprit d'un vieux comme moi? Elle le pressait, l'interrogeait de ses yeux clairs fixés sur lui. Mon père et ma mère, continua-t-elle, ne sont-ils pas les meilleurs amis du monde pour vous? Ah, les meilleurs, oui, Thérèse. Ai-je été moins prévenante à votre égard, moins obéissante? Mais non, mon enfant, je n'ai rien à vous reprocher. Alors, il ne put supporter l'interrogation prolongée de ses grands yeux d'enfant qui plongeaient au fond de lui-même et se détourna vers les lauriers à droite. Une de ses mains pendait le long du banc. Thérèse la prit entre les siennes et la caressant comme elle avait fait souvent pour obtenir une gâterie. Vous voyez bien, vous n'avez pas assez de confiance en moi pour me dire un secret, et cela me peine, allez, beaucoup plus que vous ne pouvez croire. Elle le laissa échapper la main qui retomba le long du banc. Robert se retourna. Son regard, quand il rencontra celui de Thérèse, exprimait une souffrance si profonde et si vraie que la jeune fille en fut toute saisie. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais qu'avez-vous? Demanda-t-elle. Thérèse, dit Robert, qui se contenait pour ne pas montrer toute la faiblesse devant elle. Thérèse, répondez-moi franchement. Oh, bien sûr. Thérèse, m'aimez-vous? Mais oui, je vous aime. Beaucoup, mais de tout mon cœur, mais pourquoi en doutez-vous? Thérèse, si quelqu'un venait pour vous enlever à nous, est-ce que vous nous abandonneriez? Quelqu'un? Oui, est-ce qu'au premier mot d'amour, vous vous laisseriez là, votre père, votre mère et moi, comme celles qui n'ont pas eu un foyer, tout le bonheur, toute la tendresse que vous ayez eue? Elle chercha dans sa poche un petit mouchoir de batiste. Elle le passa sur ses yeux et dit: Est-ce qu'il est venu quelqu'un? Non, non, Thérèse, dit rapidement Robert, mais s'il venait. S'il venait. Oui, un jour lointain, plus tard. La jeune fille se leva et lui la suivit du regard qui se dressait souple, non plus ému, mais affectueuse, filiale, comme il la trouvait chaque jour. S'il venait, reprit-elle, un jour plus tard, bien je lui dirais que j'appartiens d'abord à ceux qui m'ont toujours aimé. Oh, Thérèse, et je lui dirais encore autre chose. Elle se pencha vers lui. Je lui dirais, adressez-vous à mon parrain, à mon meilleur ami. Puis elle se recula jusqu'à l'entrée de la tonnelle. Était-ce bien la peine de faire tant de mystères? Dit-elle. Vous voyez, nous nous sommes expliqués. Il n'y a rien du tout entre nous qu'un peu plus tard, un jour lointain, et qui dépendra de vous. Voilà pourquoi vous vous faites du chagrin, mais rappelez-vous donc ce que vous m'avez si souvent répété. La tristesse sans raison est la grande ennemie de la jeunesse. Est-ce ainsi que vous disiez? Oui, quand vous étiez mon élève. Mais je le suis, je le serai toujours. Elle sortit de la tonnelle et s'éloigna par l'allée en face. Après une vingtaine de pas, une gentille pensée lui vint. Thérèse se retourna, fit une révérence de pensionnaire et redit avec la plus jolie mine, futée et tendre à la fois, toujours. Robert essaya de lui répondre par un sourire. De loin, elle put s'y tromper. Mais quand elle eut disparu, il se sentit en proie à une tristesse noire. Tant que Thérèse avait été là, Robert s'était contenu pour ne pas pleurer devant elle. Oh non, il ne fallait pas. C'était indigne d'un homme. À présent, il était seul. Il mit sa tête dans ses mains et se laissa emporter par ses pensées. Pour la première fois peut-être de sa vie, dans cet élan désordonné de son âme, il tutoya l'enfant dont l'image était encore là, présente devant lui. Pauvre chère petite, disait-il à demi-voix, car ta jeunesse que je pleure, parce qu'elle est exquise et que nous allons la perdre. Je le pressens, je le devine à ton charme même. Oh, tu dis que tu resteras mon élève. Oui, tu le voudras peut-être, mais tu ne sais pas, pauvre enfant, le changement profond que l'amour fait dans nos amitiés. En peu de semaines, quand tu aimeras, ton père et ta mère deviendront une affection pâle, plus effacée chaque jour. Moi, je ne serai plus rien, tu entends rien. Et voilà le prix des 18 ans de tendresse. Ne plus te voir avec l'assentiment d'un étranger, par intervalle, par faveur, découvrir en toi des pensées que je n'aurais pas vu naître, y reconnaître la main d'un autre, moi qui t'ai formé, moi qui n'ai guère que toi au monde, ô Thérèse, Thérèse. Dans ce moment d'angoisse, Robert se sentait seul. Il avait vécu dans l'intimité de Guillaume et de Geneviève, et cependant ni l'un ni l'autre ne paraissait éprouver le moindre alarme. Rien n'était changé dans la quiétude de leur vie quotidienne. Leur conversation à table témoignait de la même confiance dans la perpétuité de ce bonheur menacé. Comment ne s'ouvrait-il pas à la pensée que d'une heure à l'autre, l'enfant pouvait leur être ravi? Étrange aveuglement, ils ne devaient rien soupçonner. Ne valait-il pas mieux les avertir, leur dire « Allons-nous-en, partons pour ce voyage, n'importe où, loin, s'il se peut. Maldon demandera un congé, nous emmènerons Thérèse et nous éviterons qu'elle nous quitte. Il n'y a rien de perdu puisqu'elle n'aime pas encore. Allons-nous-en. Ou bien aidez-moi, écartez doucement les occasions, veillez, ayez pitié de vous-même et de moi, car je sens que la branche plie sous l'oiseau. » Mais à qui parler ainsi? À Geneviève? Une timidité singulière lui fit repousser cette idée. Il se sent rougir un peu. « Non, pas elle, se dit-il. Les femmes ne peuvent juger cela comme nous. Ma sœur ne comprendrait pas. Si léger qu'il soit, Guillaume a beaucoup de cœur, j'irai le trouver. » Robert se leva, suivit la grande allée aux deux tiers, tourna à gauche et se dirigea vers une petite construction en tuffeau couverte d'un toit de zinc. Le laboratoire de Guillaume Maldon, une sorte d'étouffoir aux murs mansardés, se trouvait au-dessus d'un réduit de jardinage. On y accédait par un escalier raide en bois blanc. M. de Kéredol en monta les marches avec une lenteur involontaire. Cela lui coûtait la confidence qu'il allait faire, et cela l'effrayait presque. Il y avait longtemps qu'il ne s'était entretenu d'un sujet aussi grave et intime. Pourtant, il ne voulut pas reculer, poussa la porte, légère comme de l'amadou à force d'être sèche, et entra. Guillaume Maldon, en veste blanche, écrivait juste au-dessous de la fenêtre à tabatière. « Attends, attends !» dit-il en faisant signe de la main gauche, tandis que de la droite il se hâtait d'achever la phrase commencée. « Tu vas voir, tu vas juger !» Il avait l'air si heureux, si naïvement content de lui, que Robert l'enveloppa d'un regard d'envie. La plume d'oie cria quelques secondes, et M. Maldon, radieux, ébouriffé, se retournant sur sa chaise. « Dame, dit-il, puisque tu veux rien faire, faut bien que je travaille seul. »« Au catalogue ?»« Non, mon ami, un mémoire. Je le décide à la société linnéenne. Écoute-moi ça. Mémoire sur les rapports qui existent entre la coloration de l'œuf et celle du jeune oiseau en duvet. Est-ce une trouvaille? Est-ce une assez jolie question ?» « J'en ai une aussi, moi, dont je veux te parler, » dit Robert, qui s'était appuyé au montant de la porte. « Elle est également importante, bien qu'il ne s'agisse pas d'histoire naturelle. »« Oh !» dit Guillaume avec un désappointement visible, et laissant retomber sur la table le papier qu'il avait saisi. « De quoi s'agit-il ? » « Mais de Thérèse. J'ai peur que son imagination ne commence à travailler. » Je crois avoir des preuves qu'elle n'est pas insensible, oh, sans trop le savoir, la pauvre petite, à l'attention qu'elle éveille dès qu'elle paraît. Des nuances encore, tu comprends bien, mais en pareil cas, tout est grave. Mon ami, c'est l'âge, c'est son droit. Depuis que le monde est monde, les jeunes filles sont contentes de plaire. Pourquoi veux-tu que Thérèse fasse exception ? Guillaume, reprit gravement Robert, il n'y a plus que cela, et tu as tort de prendre légèrement mon avis. Suppose que, par notre faute, parce que nous n'aurions pas assez veillé. Par exemple, il y a ici une fille bien gardée, c'est la mienne. Soit, non, je ne discute pas pour l'instant. Plus tard, si tu es de mon avis, je t'indiquerai les moyens. Les moyens, dit Guillaume, dont les yeux devinrent tout grande surprise. Oui, j'y arriverai, mais pas encore. Je suppose, Guillaume, que ta fille ait été remarquée par un jeune homme. Et après, demanda tranquillement Monsieur Maldon. Cela ne t'émeut pas. Mais si, Robert, cela me toucherait certainement. Je suppose donc que ta fille, libre, sans conseil, en vienne à aimer à son tour. Eh bien, mon cher, si nous n'y veillons pas, cette supposition-là peut être une réalité demain. Oui, demain, entends-tu. Nous pouvons l'avoir demandé en mariage, épousée, emmenée. Si jeune encore, as-tu pensé à cela, Guillaume, emmenée? Oui, quelquefois. Et tu peux admettre cette idée que demain nous ne l'aurons plus? Ah, que veux-tu, Robert? Et que nous trouverons face à face tous trois aux bépinières? Et comme autrefois, mon bon ami. Mais non pas comme autrefois, vieilli, usé. C'est un peu vrai. Et sans Thérèse, mais tu peux supporter cela, toi, sans Thérèse? Bon Dieu, mon ami, si je la savais heureuse, les enfants, on les élève pour d'autres. En somme, il faut savoir être heureux quand ils le sont, par ricochet. M. Maldon disait cela d'un ton tranquille, levant par instant les épaules en signe de résignation et de passivité. Robert le considérait sans rien répondre. Il ne s'attendait pas à rencontrer si peu de sensibilité, une imagination si froide et si bornée. Ah, certes, il se sentait d'une autre espèce, lui, de l'espèce qui souffre et se révolte. Il ne comprenait pas la vie de cette façon moutonnière. Quelque chose d'orgueilleux et de méprisant se soulevait en lui, à la vue de cet homme souriant, vêtu de clair, occupé d'oiseaux, que le sort de Thérèse, l'abandon possible des pépinières, ne parvenait pas à émouvoir. Et celui-ci regardait aussi Robert avec étonnement. Allons, mon vieil ami, dit-il en l'attirant par la main. Tu te bats contre des moulins à vent, laissons là toutes ces billevesées. Thérèse ne court aucun danger, je t'assure. Apaise-toi, tiens, assieds-toi là, je vais te lire le passage que je terminais quand tu es entré. Veux-tu? Robert s'assit, du même air offensé, près de la table. Déjà Guillaume avait saisi le cahier de papier qui contenait son mémoire. Il passa la main sur sa barbiche, ses yeux s'animèrent d'une flamme vive. « Ben, je suis rendu, dit-il, à la famille des Longuerets Girostres. Oh, je viens de traiter du chevalier Gambette et j'arrive au Bécasso du combattant. » Et il lut, scandant la phrase avec amour, « Bécasso combattant, Tringa Pugnax. » Quand le petit Bécasso, avec son bec et le secours de sa mère, vient à briser la coque qui le tenait captif, la couleur de l'œuf, jaune-gris parsemé de taches bistres, tantôt disséminée, tantôt groupée, se trouve reproduite avec une exactitude telle sur la tête, le corps, les ailes de l'oiseau, que le petit ressemble à un œuf animé. À la lettre, mon cher, regarde, est-ce une découverte? Et il désignait sur la table, à côté d'une coquille, un poussin vêtu de poils monté sur de hautes pattes. « Qu'en penses-tu ? » demanda-t-il. Robert sourit amèrement. Oh, je te félicite, dit-il. N'est-ce pas? Oui, je te félicite d'être à ce point absent de la vie. Robert se leva, ouvrit d'un coup d'épaule la porte à demi retombée et redescendit l'escalier. Mais à quoi bon lui expliquer? Murmura-t-il. Il ne comprendrait pas. Est-il résigné à tout? Que de sécheresse de cœur! Et moi qui le croyais capable d'énergie! Sommes-nous différents l'un de l'autre? Et comme il se demandait, mais quand donc a commencé notre divergence de vue? Robert s'aperçut qu'elle datait de plusieurs années, de l'époque où Thérèse avait commencé à grandir, et que depuis lors, malgré la communauté de vie, il avait eu bien peu de réelle intimité avec Maldon, et que toute sa puissance d'aimer était concentrée sur Thérèse. Et maintenant, Robert ne retrouvait plus son ami. Il ne se comprenait plus. Cette pensée le transforma bientôt et se fondit dans un élan de tendresse pour l'enfant. Monsieur de Kerédol songea que cette situation même lui imposait des devoirs. Puisque lui seul apercevait le danger, ne devait-il pas de plein droit le défenseur de tous? N'était-il pas obligé de protéger Thérèse, de la garder pour ce même qui ne voyait pas comme lui? Il sentait, avec une sorte d'amertume fière, qu'il n'avait plus que Thérèse au monde. Et il ne se dit pas, mais il fut tenté de croire qu'elle aussi n'avait plus que lui. Chapitre 8. Au moment où l'aile rose, longtemps suivie, disparaissait à l'angle d'une rue, Claude se trouvait près de chez lui. Il se sentait plein d'audace pour la conquête de Thérèse, mais de plan d'attaque, il n'en avait pas. 10 projets s'étaient levés déjà de son esprit comme un vol de lino sort d'un buisson battu. Aucun d'eux ne valait qu'on s'y arrêtât. Peut-être allait-il en surgir un 11e, quand le jeune homme, passant devant la maison voisine de la sienne, entendit une voix forte crier « Coton, où as-tu acheté ces maudits sacs de papier? C'est du papier de journal et ça craque dans la main !»« Parbleu, se dit-il, mais c'est monsieur l'official. On n'a pas des voisins pour ne pas s'en servir. Il connaît les Maldon, il est bien disposé pour moi. Si j'allais lui demander conseil. » Claude s'arrêta, se décida en 2 secondes et tira la sonnette. Goton l'official, pour employer l'expression qu'il a désignée dans tout le vieux faubourg, une forte vieille à visage sévère, vint ouvrir, regarda Claude du même air soupçonneux dont elle eut reçu un mendiant. « Monsieur l'official, oh, je ne sais pas s'il est là. Oh, si je viens de l'entendre. « Ça ne fait rien ?» Elle tenait à la main un paquet de sacs fortement collés et aplatis, avec lesquels elle s'éloigna, traînant la jambe, vers le jardin dont on voyait un coin encore feuilli et doré de soleil dans l'amphithéâtre du porche blanc. Claude perçut le bruit d'un colloque échangé entre le fifre aigu de Goton et le tonnerre contenu de monsieur l'official. Le dernier mot seul lui parvint distinctement. « C'est un joli exemple, allez, le dimanche, pour un monsieur dans les œuvres. » Et comme la vieille fille, achevant sa phrase, rentrait dans la cuisine en sous-sol, le visiteur apparut sur le seuil du jardin. « Entrez donc, monsieur Claude. Pas ici, non, 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 pas là, ici, » criait la voix de monsieur l'official. Le jardin n'était pas grand. Monsieur l'official n'était pas mince, mais on ne pouvait le découvrir de la porte à cause d'un gros massif de rhododendrons poussé comme une futaie. Il se trouvait à cheval sur le dernier barreau d'une échelle double, au-dessous d'une treille à l'italienne, vrai plafond de vigne, dont les pampres lui chatouillaient le visage. Devant lui, accroché à l'échelle, un panier se balançait, plein de papier et de bouts de fil ciré. Et tout autour, à portée de son bras, s'échappent, pendent des feuilles à demi jaunes, semé de gouttes de sang par l'automne, des grappes de raisins pendaient, mûres à point, transparentes, rousselées par endroits, quelques-unes très enveloppées déjà et ficelées dans la robe de papier qui devait les conserver fraîches. Le bonhomme, en voyant Claude s'approcher, dodelina de la tête d'un air moitié content, moitié dépité. « Vous me surprenez, dit-il, me livrant un travail servile le dimanche. Goto m'en a fait des reproches. »« Cela, un travail servile ?» répondit Claude. « Oh, on pourrait discuter. Mais je n'ai que 10 grammes emmailloté de la sorte, celle qui presse le plus. Et vous savez l'adage, « Parum pronilo reputatur ». Et je sais surtout, mon voisin, que vous êtes incapable de désobéir même à une virgule du décalogue. Ne craignez point de m'avoir scandalisé, je ne le suis pas. » Réjoui par la réponse qui calmait chez lui un scrupule réel, monsieur l'official s'épanouit. Il se pencha et son ventre s'arrondit un peu sur le barreau, prit un sac, l'entr'ouvrit et souffla fortement entre les deux feuilles blanches qui se gonflèrent comme une outre. « Mais c'est d'autant plus urgent, continua-t-il, que nous sommes dans une année de guêpe. » Il s'était mis entre les lèvres pour le tenir un fil qui descendait de chaque côté de la bouche, et prenant le sac par le fond, il enfermait avec précaution une grappe jaune comme une muscade, sans cesser le monologue, très attentif seulement à bien plisser l'enveloppe raide autour de la queue du raisin. « Une année de guêpe, répétait-il. Positivement, jeune homme. Avez-vous remarqué que ces bêtes de malheur sont en abondance tous les 9 ans ?» Claude, au pied de l'échelle, répondit en souriant. « Oh, j'aurais pu faire encore que 2 observations de ce genre, monsieur l'official. Et je vous avoue que les 2 fois cela m'a échappé. » Maintenant, la grappe était empaquetée, ficelée et tremblait au-dessus du front de son propriétaire satisfait. Monsieur l'official regarda son interlocuteur, se trouva lui-même légèrement ridicule d'avoir posé la question. « C'est vrai, dit-il, une jeunesse pareille. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, monsieur Claude ?» Le jeune homme jeta les yeux du côté de la cuisine et répondit à demi-voix. Bon, « Une question de mariage. » « Oh, ne vous gênez pas, dit en riant monsieur l'official, elle est habituée. Je ne fais que ça, de mariage. Vous ? Oui, du matin au soir. Ici ? Oh, la plupart du temps au bureau, là-bas. Mais il y a des gens me trouver jusqu'ici. Je sais quelquefois, dans mon échelle, comme vous voyez là. Oh, je leur dis pas, long, un petit discours, toujours le même. » « Mais, bons amis, vous offensez le bon Dieu, il ne faut pas que ça continue. Il faut réparer, réparer, réparer. » « Mais comment réparer ?»« Mais, je le crois, des 10 ans, des 20 ans, quelquefois. Eh bien, presque toujours, ils répondent oui. Ces 6 braves gens, le peuple, monsieur Claudel. » « Vous êtes donc adjoint, monsieur l'official ?» « Eh non, président de la Société de Saint-François-Régis. Ce que j'en ai mis d'alliance au doigt de ces fiancés tardifs. Ça fait plaisir, ça fait pitié. Enfin, mon voisin, si vous avez besoin de moi, pourrais vous protéger tout à vos ordres. Seulement, il faut les papiers. Les avez-vous ?» Il s'apprêtait à prendre un second sac dans le panier, et déjà sa main se rendait en avant. « Mon cher monsieur, il n'y a rien à réparer dans mon affaire, » répondit Claude. « Non, il s'agit de moi, qui me suis mis en tête d'aimer une jeune fille. » Monsieur l'official s'arrêta court. Un bon sourire illumina sa face ronde. « Oh, ça change mes habitudes, » dit-il, « voyons quand même. Mais d'abord, puisqu'il s'agit de vous, je m'en vais descendre. » Avec plus d'agilité qu'on ne put lui en supposer, il passa sa grosse jambe par-dessus le pignon des montants, descendit, saisit l'échelle et la porta le long du mur. « Tout à vous maintenant, » dit-il en revenant les mains tendues vers le jeune homme. « Allons à fond du jardin, nous y serons mieux. Alors vous avez donc une amourette. Alors mieux que cela, mon voisin, un grand amour.
J'entends, mais au début, je pouvais qu'on pensait qu'on pouvait employer le diminutif.
Comme vous y allez, et elle se nomme?
Ils s'assirent côte à côte sur un banc à dos renversé, derrière une touffe d'arbousiers. Thérèse Maldon.
Oh, cher ami, s'écria monsieur l'official en reprenant les mains de Claude, qu'il serra et secoua dans les siennes, tandis que ses fortes lèvres s'arrondissaient de surprise et d'admiration.
Cher ami, quelle perle! Mais comment l'avez-vous découverte, elle qui sort si peu?
Mais chez les Malestroits, quand le petit Jean est mort, vous y étiez.
Oh, pauvre innocent, reprit le bonhomme, sur la figure duquel passa une expression de pitié.
C'était notre filleule, à elle et à moi.
Mais c'est pas là que vous avez pu parler à Thérèse.
Non, mais je l'ai revue chez elle, où je suis allé deux fois, sous couleur d'histoire naturelle. Monsieur de Quérédol y a fait allusion hier, vous vous souvenez?
Jeunesse, jeunesse, abusez ainsi de nos manies. Vous avez tout de même bien fait, vous savez.
Sapristi, vous avez bien fait.
Oh, je ne connais pas deux qui la vaillent.
Il riait largement, heureux de louer, et sur leurs deux visages, avec des reflets différents, la même pensée de Thérèse mettait la joie. Le contentement débordait des yeux de monsieur l'official, pétillant de bonté sans malice. Tout à coup, il retira ses mains dans lesquelles il avait gardé celles de Claude. Sur sa figure, d'une mobilité, d'une intensité de physionomie qui lui venait en droite ligne du peuple, dont il était à peine sorti, une sorte d'inquiétude se peignit.
« Et monsieur de Quérédol, précisément, dit-il.
Eh bien,
comment prend-il la chose ?»«
Assez mal. Il soupçonne que je ne suis pas venu chez monsieur Maldon pour l'amour seulement des oiseaux. »«
Oui, vous bafouez, je l'ai bien vu. »«
Autant qu'il le peut. » Claude leva les épaules.
« Mais qu'importe ce monsieur, ajouta-t-il vivement, je puis me passer de son consentement, et sa mauvaise humeur, si elle est tout l'obstacle. »«
Ben, il importe beaucoup, au contraire, interrompit monsieur l'official, les yeux levés vers la maison en face, comptant les fenêtres l'une après l'autre.
Si monsieur de Quérédol se jette à la traverse, vous comprenez, un ami de 25 ans, logeant sous le même toit.
Mais enfin, monsieur, de quoi m'en voudrait-il?
Visiblement embarrassé, monsieur l'official baissa la tête vers la terre et se mit à pousser du bout du pied le sable qu'il entassait par petits monticules. Enfin, écrasant son œuvre sous son large brodequin.
Non, de rien, en effet, mon cher enfant, dit-il. C'est un homme d'honneur et dès lors incapable d'une supposée opposition déloyale.
Ben, laissons-le et occupons-nous des moyens de vous rendre agréable aux parents de Thérèse et à Thérèse elle-même.
C'est le premier point, y avez-vous songé?
Oui, mais sans rien découvrir. Et je pensais que vous seriez plus heureux que moi. Vous connaissez de longue date les Maldon.
Assez pour bien savoir, mon ami, que si vous agissez avec Maldon comme vous agiriez avec un autre, vous ne réussirez pas.
Sa fille est encore très jeune. Il ne se laissera pas tenter par la fortune. Il faut que vous lui plaisiez, qu'il ait pour vous une sympathie prononcée.
Mais comment faire? Il ne reçoit pas chez lui.
Monsieur de Quérédol l'en empêche.
Oui.
Au musée, je le troublerai dans ses travaux.
Oui.
Alors?
Ben, « il y aura bien un moyen, » dit monsieur l'official en souriant, « même un très bon.
Chassez-vous ?»«
Ah oui, de père en fils, » répondit Claude.
« Vous tirez bien ?»«
Oh, possiblement. »«
C'est qu'il ne faudra pas manquer. »« Oh, si vous manquez votre coup, vous n'aurez pas l'occasion d'en tirer un second. »
Et ici la voix de monsieur l'official diminua de sonorité, et ce fut tout bas qu'il continua. « Je vais vous révéler un secret. N'ayez jamais l'air de le savoir. Maldon ne vous le pardonnerait pas. » Il a réuni la plus merveilleuse collection d'oiseaux qui soit peut-être en province. Oh, je le sais. Bien pourtant, il en manque un. Mais lequel? Oh, un seul d'une espèce évidemment rare, difficile à se procurer, puisque Maldon, en 20 ans de chasse, n'a pas réussi à le tuer. Oh, mais dites, monsieur l'official, demanda Claude, l'œil brillant déjà prêt à se mettre en route, dites son nom. Où la trouve-t-on? Est-ce très loin? Attendez, repartit doucement le bonhomme. Je vous aurais pas lancé sur une proie impossible. Oui, je possède sur le bord de la Loire un petit bien, les Luisettes. Et c'est là? Attendez donc. Dedans, il y a un marais couvert de saules et de roseaux. Même en été, il y reste un peu d'eau. Moi, je suis pas chasseur du tout. Mais j'ai si bien le temps de me promener. Eh bien, ce que je n'avais pas dit à Maldon, parce que le seul amour de l'art ne me déciderait pas à faire tuer une jolie bête, bien je vous le confie à vous, pour l'amour de Thérèse. Mon cher ami, dans mon marais, je sais positivement qu'il existe un couple de... Il se pencha, mit ses mains en tuyaux, de sarcelles bleues. Oh, cher monsieur l'official, chut, n'ébruitez rien. C'est sauvage à vous entendre d'ici. Et puis le moindre mot rapporté à Maldon gâterait tout. Commencez par vous aboucher avec le père Malestroit. Il a le maniement des bateaux. Colin, il pourra vous accompagner et aussi et lancer les manons. Colibri, je ne dis pas, même Malestroit, il est rude. Dites que c'est pour moi. J'ai eu l'occasion de le rendre un petit service autrefois, quand je commençais à m'occuper de la Régis, comme dit Gaston. Il revenait du Tour de France. Oh, Dieu! Le bon compagnon, enfin, c'est devenu tout à fait rangé. Demandez-lui ça en mon nom. Que je vous remercie, s'écria Claude en serrant la main du bonhomme qui s'était levé. Vous me remercierez plus tard. Le tour n'est pas joué. Prenez du plomb un peu fort. Oui, monsieur l'official. Pas trop gros pour ne pas abîmer la bête. Non, monsieur. Choisissez une petite brune. Ils s'en allèrent, causant de la sorte jusqu'au bout du porche. Là, monsieur l'official, qui n'était pas en tenue, s'effaça le long de la porte. Claude sortit et, sur une poignée de main rapide, ils se quittèrent, l'un tout plein de sa propre joie, le second heureux de la joie de l'autre, comme convenait à leur âge. Claude se rendit sans plus tarder chez M. Malestroit, lui exposa l'affaire et reçut cette réponse. « Une bonne partie, M. Claude. Bien nourri, bien logé, pas grand-chose à faire. Ça me va toujours, comptez sur moi. » Il alla ensuite chez Colibri, qui hésitait un peu, et finit par dire de sa voix flûtée, « Oh, ça ne me convient guère, mais pour vous obliger, monsieur Claude, on ne demande pas mieux. » Le soir, dans la bibliothèque, il feuilleta des livres d'histoire naturelle pour y trouver la description de la sarcelle, la découvrit, la relut pour s'en mieux pénétrer. Puis il s'endormit, rêvant que la petite brume était venue et qu'il tuait l'oiseau bleu, destiné à gagner le cœur du vieux père Maldon.